Depuis quelques jours, l'école est à nouveau au centre de l'attention, avec la polémique née autour de la nouvelle ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra, contrainte de se justifier sur l'inscription de ses trois fils à Stanislas, non loin d'ici. Dans ce débat, on retrouve tous les ingrédients de la crise de l'école, avec la question du non-remplacement des profs, la tension privée-publique, l'évitement de l'enseignement public par les élites. Et nous sommes donc en pleine actualité, et elle devrait peut-être, vraisemblablement, être renforcée ce soir avec la prise de parole d'Emmanuel Macron. Mais nous, ce soir, nous voulons avoir une réflexion plus large. Nous sommes partis d'un constat. L'idéal de l'école républicaine transmettant les valeurs de la République et promouvant le bien commun semble ne plus être rempli. L'échec scolaire, la violence et le communautarisme se développent et signent une crise de l'institution. De nombreuses réformes ont tenté d'y remédier avec des succès pour le moins incertains. Quelles sont les causes de cet échec? Comment l'école peut-elle mieux préparer à faire société? Pour en discuter, nous avons la chance d'avoir deux invités et une étudiante du Centre Sèvres, qui sont des praticiens au cœur de ces débats. Christophe Schietze, vous avez 54 ans, vous êtes depuis septembre de cette année secrétaire général de l'URSSEC, l'Union des réseaux congrégationnistes de l'enseignement catholique. Elle regroupe 1200 établissements de 94 congrégations et 720 000 élèves, soit un tiers de l'enseignement catholique en France. Vous avez une formation d'éducateur et avait monté toutes les marches dans l'enseignement catholique grâce à la formation continue et au fait que les responsables qui vous ont nommé à vos postes successifs ont jugé que vous y seriez utile. Et ça fait votre bonheur. Christophe Prévost, vous avez 41 ans, vous êtes secrétaire général de Vers le Haut, un think tank, donc un groupe de réflexion dédié aux jeunes et à l'éducation, lancé en 2015 par Bayard et Apprenti d'Auteuil, notamment, avec l'ambition de nourrir le débat public, les décideurs et les acteurs de l'éducation. Vous avez une formation d'officier de marine, qui est originale, à l'école navale, et vous avez passé 10 ans embarqué, notamment dans les sous-marins. Ça vous a peut-être donné l'occasion de réfléchir, parce qu'il y a il y a du temps, sans doute, dans un sous-marin pour réfléchir. Vous avez ensuite fait l'ENA et travaillé à la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, puis à la mission interministérielle de préfiguration du Service National Universel, le SNU, qui regroupait vos savoir-faire en matière d'armée et d'éducation. Vous en êtes sorti fatigué, dites-vous, et dubitatif, après les Gilets jaunes et le Covid. Et par hasard, vous avez été mis en lien avec Vers le Haut, auquel vous êtes arrivé il y a 2 ans, c'est ça ? Et donc nous avons aussi une étudiante dans cette auguste maison qui vous interrogera et surtout interviendra dans le débat. Donc Isabelle de la Garandrie, vous êtes vierge consacrée du diocèse de Nanterre, doctorante au Centre Sèvres, donc étudiante ici en théologie dogmatique. Mais ce qui nous intéresse particulièrement ce soir, c'est que vous êtes professeur agrégé de lettres modernes en lycée et vous enseignez depuis 10 ans en banlieue sensible à Argenteuil, en collège, puis en lycée. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont tilté sur le nom d'Isabelle. Son grand-père, Antoine de la Garandrie, est l'un des promoteurs, un des découvreurs de la pédagogie de la gestion mentale, dont on disait tout à l'heure en discutant entre nous que ça revient très à la mode à l'heure actuelle. On va peut-être commencer avec vous, Guillaume Prévost, sur donc vous êtes Vers le Haut, à travailler entre 2019 et 2021 à lancer des états généraux de l'éducation, dont voici le compte-rendu. Et je lis « Changer l'éducation, c'est possible, le programme prêt à l'emploi co-construit par la société civile ». Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur en quoi consistait cette démarche?
Merci beaucoup Vincent, avec plaisir. Merci d'abord de votre invitation ce soir. J'aurais envie, pour répondre à votre question, de renverser un peu les termes du débat. Comment l'école pourrait-elle mieux préparer à faire société? Au fond, si on se pose cette question, c'est qu'on estime que l'école porte une vérité de la société qu'elle doit porter vers la société, un peu comme finalement le feu des Vestales couvait l'âme de Rome. Cette imagerie, cette comparaison avec l'Empire romain n'est pas choisie par hasard. J'y reviendrai. Cette centralité de l'école pour notre société, à mon avis, est une évidence perçue par chacun que le débat français n'a jamais pris la peine de remettre en cause. Et moi, je dirais aujourd'hui, est-ce bien la question? Au fond, n'est-il pas bien davantage question de se demander comment la société pourrait-elle mieux se mettre en capacité de faire école? Et je trouve que reposer la question sous ces termes, c'est remettre au centre la question éducative comme une question sociale, sociétale, civilisationnelle, c'est à la mode comme approche des choses, vous le savez. Et du coup, ça permet de remettre un peu en cause l'extrême centralité de l'enseignement dans la question éducative en France aujourd'hui. On reviendra, j'espère, sur tous ces sujets. Le but est d'ouvrir le débat. Et du coup, ça explique, en tout cas, ça signe l'ambition initiale de vers le haut. Remettre la question éducative dans sa globalité, remettre la société, notre époque, notre temps, au sens profond du terme, en situation de répondre à la question éducative, qu'on peut résumer de la façon suivante. Qu'avons-nous au fond à transmettre? Qu'avons-nous au fond que nous souhaitons léguer, actif et passif? On sait que dans toute espace de transmission, il y a un actif et il y a un passif. Il ne s'agit pas de juger de la part de chacun. Que nous estimons suffisamment précieux, adaptés, pour que les générations futures s'en emparent. Sachant que cette question de la transmission, elle doit toujours se matiner d'une précaution éthique, qui est celle de la liberté de la personne à laquelle je m'adresse, et de l'enfant en particulier. L'enfant est un sujet de liberté complexe, chacun le pressent. Puisque nous sommes face à l'enfant, redevables dans notre ambition de transmettre, face à l'adulte qu'il sera demain. Et donc au fond, inverser la question, c'est se dire l'école est au service de l'éducation et pas l'éducation au service de l'école, et l'école n'est qu'un outil d'une dynamique éducative qui la dépasse. Et de ce point de vue-là, la question éducative ne se résume pas au point d'indice des enseignants ou aux obligations réglementaires des enseignants ou à l'organisation des chefs d'établissement ou au pouvoir du directeur d'école, mais ce sont des outils au service d'une vision que nous avons de l'enfant et de l'adulte qui sera demain. Et c'est pour ça que Verlo a été créé, notamment par des grands acteurs de l'éducation en difficulté, les enfants de la protection de l'enfance en particulier. Pour ceux qui ne le savent pas, les enfants de la protection de l'enfance, c'est des enfants placés parce que le pouvoir judiciaire estime qu'ils sont en danger dans leur sphère familiale, ce qui est quand même, on parle de choses assez lourdes. Et donc ces acteurs, les apprentis d'Auteuil, SOS Village d'Enfants, d'autres acteurs, estimaient que l'évolution du débat éducatif tel qu'elle allait, on oppose le public et le privé, le programme de mathématiques en première, était complètement déconnecté des enjeux éducatifs, humains, sociaux, parfois dramatiques, auxquels ces associations, ces grands acteurs font face. Et du coup, l'enjeu et l'ambition de Vers le Haut, c'est de remettre au cœur du débat public la question éducative avec sa profondeur, avec sa complexité, mais aussi avec la responsabilité profonde à laquelle elle somme toute société de répondre. Qu'avez-vous donc à transmettre? Voilà, voilà, peut-être une façon comme une autre de présenter vers le haut, et je reviendrai avec plaisir sur toutes les choses que j'évoquais.
Christophe, la question est-elle bonne posée, bien posée, ou il faut la renverser?
Eh bien, j'avais envie, un peu comme Guillaume, de renverser la question ou d'en renvoyer une deuxième. Comment la société peut-elle être plus éducatrice pour aider l'école à jouer son rôle de creuset national et de lieu de cohésion et de construction des citoyens de demain? Parce que on demande beaucoup de choses à l'école. À chaque fois qu'un problème ou qu'un fait divers vient bousculer l'actualité, eh bien, on va demander à l'école de le régler, en fait. Y compris par des injonctions complètement contradictoires. Par exemple, de préparer au mieux les enfants et les jeunes pour entrer dans le monde du travail. Et dans le même temps, et vous remarquerez que je ne dis pas en même temps, mais dans le même temps, d'individualiser les programmes. C'est-à-dire de s'occuper de chaque enfant dans ce qu'il a d'unique. Je pense très sincèrement que notre système scolaire est un peu sclérosé et qu'il fabrique quelque part de la ségrégation. Il fabrique de la ségrégation, par exemple, en tout cas pour l'enseignement public, avec la carte scolaire, qui finalement va interdire à des enfants, de par leur situation géographique, d'aller s'inscrire dans tel ou tel établissement, ce qu'on peut tout à fait contourner. Je suis lyonnais, j'habite pas très loin du parc de la Tête d'Or, avec le célèbre lycée du parc, et il y a des gens qui louent des garages uniquement pour avoir une adresse dans le secteur du lycée du parc et que leurs enfants puissent y être scolarisés. Avec mon épouse, nous avons fait le choix inverse. Bien évidemment, ils sont allés dans l'enseignement catholique, même si maman travaille dans une REP, hein. Elle est institutrice en milieu sensible, la vie urbaine. Mais nous n'avons pas voulu qu'ils aillent au lycée du parc. Mais nous avons préféré de plus petits lycées, certes catholiques, mais où l'ambiance était un peu moins sélective que le lycée du parc. Le collège unique, loi Abi 1974. Alors, si le collège est unique, il n'est pas pour autant uniforme. Parce qu'on voit par exemple que les enseignants les plus diplômés, alors vous êtes l'exemple inverse, mais voilà, se retrouvent dans les meilleurs établissements et les mieux formés, alors que dans les zones plus d'éducation plus sensibles, on va retrouver des professeurs soit contractuels, soit qui sont débutants, hein, parce que c'est le jeu de l'administration qui veut ça. On a parlé ces derniers temps des résultats de l'enquête PISA et de la catastrophe qu'était la baisse du niveau des élèves de 15 ans en mathématiques. Même si je pense qu'il faudrait pondérer ce résultat dans la mesure où on n'a pas tenu compte de la marge d'erreur. On a fait l'étude seulement sur 1777 élèves de 15 ans. Donc il y a une marge d'erreur, bien évidemment, et une pondération dont on n'a pas tenu compte. Et on s'aperçoit que les autres pays, eux aussi, ont reculé sur le niveau des mathématiques des élèves de 15 ans, et qu'on n'est pas forcément le pire élève ou le plus mauvais élève dans le domaine. En revanche, ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est l'écart qui se situe par rapport à ce niveau de mathématiques entre le quart des élèves les plus en difficulté et le quart des élèves qui ont le moins de difficultés. Cet écart, il est équivalent à 3,75 années de niveau. Et ça, à mon sens, c'est beaucoup plus inquiétant que le fait d'avoir perdu en points sur le niveau de mathématiques des élèves de 15 ans. Je vous l'ai dit parce que l'analyse n'était pas forcément très bonne et très fine. En fin de compte, le lycée est toujours construit un peu sur le modèle napoléonien, modèle qui voulait sélectionner les élites de la nation. Donc il est un peu et toujours ségrégationniste. On parle souvent des réformes qui se succèdent, hein, parce que la durée de vie d'un ministre de l'Éducation dans la Ve République, c'est 2 ans. Alors, pénultième, lui, il va faire encore baisser la moyenne, hein, puisque bah, il est pas resté une année scolaire entière. Benoît Hamon avait fait un peu pareil, mais voilà. Donc, ces deux ans. Donc, chaque ministre veut qu'une réforme porte un peu son nom. Souvenez-vous de la dernière réforme du lycée Blanquer, qui a tellement été mise en œuvre avec un temps suffisant qu'il a fallu, dès l'année suivante, l'amender et faire du rétropédalage. On a remis les mathématiques, on a rechangé les choses. Donc, les réformes se succèdent. On prend jamais le temps de les évaluer, qu'une réforme en remplace une autre. Donc, pour compléter un peu et pour être un peu sur la même ligne que Guillaume, comment sommes-nous sûrs que nous portons bien ensemble les valeurs de la République en tant que société et que c'est l'idéal et la vision que nous avons? Comment allons-nous porter une politique, une orientation éducative qui ne soit pas utilitariste. Vous voyez, je parlais de la réforme, la dernière réforme du lycée, qui me fait penser à deux exemples. Le premier exemple, c'est le guépard de Visconti, où le fils du noble va être poussé par son père mais qui n'a plus de pouvoir parce que désargenté, va être poussé par son père à aller épouser la fille du maire et qui a le pouvoir, pour qu'au final, on a l'impression que tout change. Mais que rien ne change, les cercles d'influence restent les mêmes. Et puis deuxième exemple, ce sont les salines d'Arc-sur-Senan dans l'est de la France, où toute l'organisation, Arc-et-Senan, excusez-moi cette imprécision, cher monsieur, où tout était organisé pour que les gens de cette région-là travaillent dans les salines. Après, on peut parler de Berliet à Lyon, de Michelin à Clermont-Ferrand, qui avait ses écoles, ses hôpitaux, voilà. Ou de Schneider au Creusot. Mais voilà. Donc cette réforme du lycée me fait un petit peu penser à ces deux exemples-là. Mais comment sommes-nous sûrs que liberté, égalité, fraternité ne vont pas être uniquement des paroles pour décorer nos bâtiments publics, mais que nous allons pouvoir un peu les vivre réellement et en profondeur? Et surtout les partager en termes de société, pour embarquer tout le monde dans cette entreprise éducative, qui est essentielle, puisque ce sont les générations à venir qui représentent l'avenir de la cité.
Merci beaucoup. Isabelle, on va vous intégrer au débat, c'est le plus simple. Alors, comment est-ce que l'école peut mieux préparer à faire société, ou pour reprendre ce que dit Christophe, est-ce que c'est un système sclérosé qui fabrique de la ségrégation? Est-ce que c'est ça que vous ressentez?
Alors, je dirais que, déjà pour réagir à ce que disait Guillaume sur l'inversion de la proposition, je pense qu'il faut considérer les deux vraiment en lien en réalité. C'est d'une part l'école qui prépare à faire société et la société aussi qui fait qu'ensemble, nous allons avoir une école qui fonctionne. Il est vrai qu'aujourd'hui, moi aussi, je fais le constat d'une certaine sclérose de notre système éducatif aujourd'hui. Mais en même temps, notre société, elle porte assez mal aujourd'hui les valeurs républicaines. Elle porte aussi, je crois, qu'entre l'école et la société, aujourd'hui, il y a une forme de malentendu ou peut-être de méconnaissance qui perdure. C'est un certain nombre de personnes vont voir dans le système pensent tout savoir du système éducatif, parce qu'il est vrai que nous tous, nous avons fait l'expérience d'être élèves. Donc chacun s'érige expert de l'éducation avec autant de propositions à la clé. Mais au-delà de ce côté un petit peu caricatural, il y a aussi sans doute l'aspect individualiste de notre civilisation, aussi le caractère à considérer l'école comme un endroit où on viendrait consommer dans notre société de consommation. Et peut-être pas assez, qu'est-ce qu'on veut transmettre? Je rejoins tout à fait la question. En revanche, aujourd'hui, à l'inverse, pour mes élèves, nos élèves, il semble difficile de croire dans une société qui semble libre, égale et fraternelle. Les valeurs de la République, si vous en parlez à mes élèves, ils vont dire « oui, oui, égalité, d'accord, mais nous, on va être rejetés ». Alors évidemment, face à moi, j'ai tous ces élèves dont on parle dans les médias, qui vont parfois commettre des actes de violence, qui parfois vont rater le bac, avec notre taux de réussite au bac qui est assez catastrophique. Mais moi, je vois quand même en eux des vraies raisons d'espérer, des envies de grandir. Mais ils se sentent complètement... Ben, la ghettoisation dont on parle pour la carte scolaire est une réalité pour eux. Ils se sentent rejetés de par cette carte scolaire. Ils ne connaissent pas autre chose. Et ils savent très bien que même les meilleurs d'entre eux, leur fameux dossier sur Parcoursup, donc vous savez, c'est le système de sélection pour le post-bac, eh bien leurs dossiers passeront à dossier égal après celui d'un meilleur lycée, malheureusement. Et tout ça, ils en ont bien conscience. Et je trouve que c'est assez dramatique. Alors il nous appartient certes à nous, d'enseignants, de les aider à reprendre espérance, mais dans les faits, c'est compliqué. Et alors, ça peut passer par des petites choses, mais je vois aussi dans les petites actions qu'on peut mener, dans l'ouverture à la culture, notamment, je suis toujours frappée quand je les emmène en sortie scolaire, notamment à Paris, voir des monuments, qu'ils réalisent soudain que cette culture-là, qui est une culture plus bourgeoise dans leurs yeux, eh bien, en réalité, c'est aussi pour eux. Mais tout cet apprentissage-là, on en est encore très très loin. Et il me semble qu'il y a des liens qui se distendent de plus en plus, et qu'avant de se demander si l'école peut mieux préparer à la société ou si la société peut à mieux faire école, je crois qu'il faudrait avant tout recréer du lien entre tous ces domaines.
Réagir les uns aux autres. Guillaume.
Alors, la question du lien, elle est intéressante, mais l'école n'a pas forcément... c'est pas forcément la mission de l'école. Alors, ça peut faire partie des missions de l'école. Enfin, ouais. Oui, déjà que si on aborde la question des missions, concrètement, au-delà de ce qu'on vient de dire, c'est compliqué. Est-ce que la mission de l'école, c'est d'enseigner les mathématiques, les fondamentaux, les réécrire compter, ou alors on dit les réécrire compter, puis Jean-Michel Blanquer disait respecter autrui, puis demain on dira respecter la planète, puis l'égalité entre les filles et les garçons aussi, puis savoir faire du vélo, et puis l'éducation à la santé, et puis bien s'alimenter, c'est très important. Je veux dire, qui peut ignorer que on a des vrais sujets d'alimentation, et puis bouger. Et puis vous voyez que cette affaire des fondamentaux, finalement, si on met les choses en perspective, bah, c'est quoi les fondamentaux de l'école? Quelle est la mission de l'école? Finalement, une succession de missions, d'injonctions de la société, et sur ça je reviens à mon image des Vestales. Et alors, finalement, le cœur de la mission de l'école, c'est le lien, donc l'école va construire le lien. Je crois que, en fait, on ne cesse de poser des questions, de porter des injonctions, des nouvelles missions, pour lesquelles l'école n'est pas armée, elle ne le sera jamais. L'éducation, c'est pas que l'école. L'éducation, c'est dans la famille, dans les patronages, dans l'éducation populaire, dans le centre de loisirs, au square. Quel parent aujourd'hui ose encore faire une remarque à un enfant qui n'est pas le sien dans un jardin public? Ça fait partie de l'éducation. Mais il y a une série de choses. L'école, c'est l'instruction, l'éducation, c'est la famille. Bah, pas sûr, hein. Si 25% des enfants vivent dans des familles monoparentales, si 20% des enfants vivent dans des familles sous le seuil de pauvreté, c'est pas sûr. Et puis si réussir à l'école, en fait, on a parlé rapidement d'Antoine de la Garandrie. En fait, derrière Antoine de la Garandrie, depuis 50 ans, il y a quand même eu des apports très importants de la recherche. Un renouvellement très profond, notamment dans les pays anglo-saxons, sur ce que c'est que l'intelligence. En fait, au cœur de notre école, Vestale de la République, il y a l'intelligence. Il y a cette mythique de Camus qui... arrivant au soir de son prix Nobel, dit « Je voudrais rendre hommage à Monsieur Germain ». Alors, ça ne rate pas régulièrement, les ministres disent « Je voudrais rendre hommage ». Alors là, c'est une figure imposée en France. Hein. Je suis un gamin de la rue, et puis c'est l'école qui a fait de moi ce que je suis. Et puis en fait, notre société, elle est traversée de cette mythique, du mérite, des classes populaires, se hissant à la place des aristocrates auxquels on a coupé la tête par la force de l'école, Vestale de la République. J'y reviendrai sur cette affaire de valeur de la République, parce que moi je suis pas sûr que la République soit une affaire de valeur, mais on y reviendra. Et du coup, si on bat un peu tout ce qu'on vient de dire là, le lien, l'éducation des filles et garçons, le développement durable, savoir faire du vélo, savoir s'alimenter, etc., on sent bien que nos enseignants agrégés, certifiés d'histoire, de mathématiques, de français, avec des emplois du temps, 18 heures pour les certifiés, 14 heures pour les agrégés, 15 heures pour les agrégés, les heures de décharge, On sent bien que ce système, il n'est pas fait pour éduquer. Il est fait pour donner des cours. Donc je suis enseignant, je compte mes heures de cours. Mais il n'est pas fait pour connaître l'enfant. Il n'est pas fait pour lier le lien avec la famille, indispensable, notamment pour les enfants issus de classes populaires, dont on sait que le soutien des parents est moindre parce qu'ils ont forcément pas les codes, et qu'au moment où on va s'orienter, choisir une classe préparatoire, choisir un cursus, bah évidemment que celui qui a fait Polytechnique, il connaît mieux le cursus. Évidemment que celui qui n'a pas fait d'études supérieures, il sait pas comment aujourd'hui se débrouiller entre les bachelors, l'université, pas l'université. Enfin, oui, même un bon élève, aujourd'hui, comment il fait? Donc vous voyez, je reviens sur mes sciences cognitives. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas des enfants intelligents et pas intelligents. En tout cas, c'est plus compliqué que ça. On sait qu'un enfant, il réussit ses apprentissages pour trois raisons. Parce qu'il donne du sens à ses apprentissages. Parce qu'il a confiance en lui, ce qui nourrit sa motivation. Et parce qu'il s'appuie sur des relations qu'il nourrisse. Du sens à ses apprentissages. Les enfants apprennent à lire parce que depuis 3 ans avant qu'on leur apprenne la lecture, on leur a lu des histoires. Aujourd'hui, on sait que ce qui est déterminant dans l'apprentissage de la lecture, c'est prenez votre enfant sur les genoux à partir de 2 ans et racontez-lui des histoires. Il va naturellement avoir envie de lire, il va naturellement apprendre à lire. Parce qu'il sait à quoi ça sert. Ça sert à savoir la suite de l'histoire du loup qui est tombé dans le trou, etc. Vous voyez, autre chose, on veut souvent lire des histoires différentes aux enfants. Les sciences cognitives ont montré qu'en fait les enfants, ils adorent lire la même histoire 20 fois. Parce qu'en fait, ça nourrit le circuit de la récompense. Ils refont l'histoire 20 fois différemment, ça nourrit autour d'une même histoire le déploiement de leur capacité cognitive. Donc en fait, aujourd'hui, on a, notamment grâce à Antoine de la Garandrie en France, une approche de l'intelligence infiniment plus complexe et qui montre que les sous-jacents de la réussite scolaire, les sous-jacents des apprentissages, ne sont pas à l'école. Ils sont dans la famille, dans l'expérience, dans les amitiés, dans la capacité de l'enfant à entrer en relation, surtout dans les petites classes. Alors, une fois qu'on a posé tout ça, ben en fait, ça remet tout en cause. Si notre système, c'est un système de sélection des enfants en fonction de leur capacité à monter dans l'abstraction, ben en fait, ce que montrent les sciences cognitives et la théorie de l'attachement, c'est que la capacité à faire de l'abstrait, elle est directement liée à la sécurité affective de l'enfant. Donc on sent bien qu'un enfant fragilisé dans son cercle familial, on a parlé de la protection de l'enfance, mais il va avoir du mal dans ses apprentissages cognitifs. Vous voyez, il y a un mathématicien, au moment où on parlait de mathématiques, il y a un test super au CP. Vous dites, donne-moi 5 billes. L'enfant, 1, 2, 3, 4, 5. Il approche le nombre par la construction. Si vous lui dites, ah, en fait, j'en voulais pas 5, j'en voulais 6. Vous avez l'enfant, il en rajoute une. Il a compris. Il est passé de la construction au nombre. Et vous avez l'enfant qui va devoir recommencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les enseignants disent, celui-là, il a pas fait le pas du constructivisme à l'abstraction, il va être en difficulté au CP. Et ben cette capacité de passer du faire au penser, elle est directement liée, mais absolument directement liée, à la sécurité affective de l'enfant. Donc on voit que si on prend les résultats de la recherche des sciences cognitives de ces 50 dernières années, en fait ça balaye complètement notre école napoléonienne assise sur la sélection des enfants intelligents. En fait, depuis 50 ans, on a sélectionné les enfants sécurisés affectivement. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui des insécurisés affectivement?
Christophe.
Alors, effectivement, vous disiez, Guillaume, qu'on demande beaucoup trop de choses à l'école. Hein, et que... moi, je me rappelle quand j'étais... chef d'établissement, certains profs disaient je suis pas là pour les aimer. Je suis là pour transmettre un savoir. Je suis pas là pour les aimer. Je suis pas là pour vous aimer. Quand on dit souvent les gamins, ils nous disent dans la classe, ah mais monsieur, vous m'aimez pas. Et ah mais je suis pas là pour t'aimer. Bah si vous aimez pas les enfants, faites un autre métier. Hein. Enfin, parce que ça va être long, hein. 40 ans, c'est long. Et je pense que, effectivement, vous avez raison. Et moi, je dirais que si on veut reconstruire ce lien parce que on a besoin de faire du lien dans notre société. Je pense que la crise du Covid a été, alors elle nous a montré plein de choses, mais elle a été un peu destructrice du lien social, parce qu'on était obligé d'appliquer des mesures de distanciation sociale. Et moi, ça m'est beaucoup frappé quand je sortais, les rares fois où je sortais pour promener mon chien, qui s'est jamais tant promené que pendant cette période-là, il a pris des muscles incroyables, cet animal. Je voyais les gens dans les commerces s'invectiver tout de suite, sans raison apparente. Les gens ne se supportaient plus, finalement. Et ça a un petit peu cassé le lien. Alors, l'école n'est pas le seul endroit où on peut tisser du lien, mais c'est en dehors de la famille le lien où on peut construire du lien avec celui qui est différent, vraiment différent de moi. Et je pense que si on ne met pas en exergue la fraternité originelle comme un fondement de l'éducation, et pour nous chrétiens, cette fraternité originelle, elle a bien évidemment un fondement théologique, puisque nous nous reconnaissons comme enfants d'un même père, mais pour les gens qui ne croient pas, cette fraternité, elle relève plus de la nature même du genre humain que d'une obligation morale. Et c'est ça qu'il faut expérimenter dès le plus jeune âge. Parce que on est dans un monde de la consommation, de la surconsommation, de la concurrence et aussi un petit peu de la culture du déchet. Et dans cette culture du déchet, les deux premières catégories qui sont visées, ce sont les personnes âgées parce qu'elles ne sont plus productives et les enfants parce qu'ils ne le sont pas encore. Et je me rappelle ces paroles que disait Pascal Balmont, qui était le secrétaire général d'enseignement catholique, qui disait l'école catholique n'est pas seulement là, alors on peut le dire de l'école, hein, et pas que de l'école catholique, mais l'école n'est pas seulement là pour apprendre ce qui va être utile demain, mais ce qui est vital. Et en ça, elle complète la famille qui est et qui reste, en théorie, le premier lieu d'éducation des enfants. Et il ne faut absolument pas minimiser le rôle des parents. Il ne faut pas non plus opposer les parents aux enseignants, parce que bien souvent, on a des représentations des parents. Moi, je me souviens, quand il fallait les faire participer à un conseil de classe, les profs n'étaient pas super, super chauds. Ils n'aimaient pas trop ça. Et puis, les parents s'imaginent que la maîtresse, elle a juillet-août, elle a toutes les vacances. Je vais vous raconter une anecdote que je tiens de Luc Ferry, qui était à l'époque ministre de l'Éducation nationale, et qui avait eu une conversation avec son collègue Francis Maire, qui était lui à l'époque à l'industrie, me semble-t-il.
Bon,
c'est un monsieur, Francis Maire, un grand patron, tout ça, ministre de l'Industrie.
Grand patron d'usine Saint-Cylor, oui.
Voilà, et qui disait à Luc Ferry...
Très intéressé par les questions d'éducation, Luc.
Très intéressé, ouais, et très qui disait pendant un déplacement qu'ils avaient ensemble, « Ah mon pauvre Luc, moi je te plains parce que dans ton ministère, tes profs, quand ils sont pas en vacances, ils sont en grève. » Voilà donc l'image que Francis Maire avait du corps enseignant. Quand ils sont pas en vacances, c'est qu'ils sont en grève. Ce à quoi Luc Ferry lui avait répondu, « Mon pauvre Francis, si je te mettais devant une classe de quatrième, je pense que tu ressortirais en tutu. » Parce qu'évidemment, c'est un métier qui est très usant, hein, le métier d'enseignant. Voilà, mais tout ça pour dire que effectivement, l'école ne peut pas répondre à tout. Moi, quand j'enseignais l'éducation civique, par exemple, en cinquième, dans le programme de cinquième, il y avait tout un truc sur comment il faut bien manger, comment il faut bien se nourrir, qu'il faut se laver les dents 3 fois par jour. On pourrait dire que c'est pas forcément à l'école d'apprendre ça. Et qui plus est, alors cinquième, c'est en plus un peu l'âge bête, hein. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais cinquième, quatrième, c'est vraiment un âge un peu difficile. Bien évidemment, à prendre le contre-pied de ce que le prof dit, parce qu'il est comme les parents, il raconte un peu n'importe quoi, c'est normal, à cet âge-là, c'est ce qu'on pense. Mais si on va apprendre ça dans des bouquins, c'est pas comme ça qu'on va faire en sorte que les enfants se nourrissent bien, se lavent les dents, et quel exemple on leur donne, quoi. Enfin, je sais pas. La première des éducations pour moi, c'est l'éducation du bon exemple. C'est l'exemplarité. Et de les relations qu'on arrivera à tisser les uns avec les autres, dans la communauté éducative entre adultes, avec les jeunes, avec les parents, permettra sans doute aux enfants de développer ce type d'attitude-là, quoi. Il m'est dans mes précédentes fonctions, dans la congrégation pour laquelle je travaillais, j'ai été secrétaire...
Les frères maristes.
J'ai travaillé beaucoup avec l'étranger. Hein, j'étais secrétaire à la mission éducative pour l'ensemble de l'Europe. Donc, je travaillais avec 11 pays différents et beaucoup avec l'Espagne. J'ai été frappé de voir, par exemple, que dans l'équivalent un peu du brevet des collèges en Espagne, ils ont obligatoirement un stage de solidarité à faire dans une association et de faire un rendu compte de ce stage-là par un petit écrit et un oral. Donc, ça veut dire que la solidarité, elle est intégrée dans le cursus des enfants et que on va leur demander, leur imposer d'aller faire un stage dans une association sociale ou caritative, voilà, d'en faire retour de manière à expérimenter un peu les choses. Donc, l'exemplarité et l'expérience. Les temps éducatifs, ils ne se limitent pas à la salle de classe. C'est tout un ensemble d'expériences de vie, que ce soit dans la famille, à l'école, dans le mouvement associatif, sportif, caritatif, les mouvements de jeunesse, hein, dans les mouvements religieux, pour que toute la société soit éducatrice. Pour autant qu'on se retrouve dans les mêmes valeurs et qu'on reconnaisse cette fraternité originelle comme obligatoire.
Isabelle, est-ce qu'il faut aimer ses élèves ?
Oui, alors je consonne vraiment pleinement avec ce qui vient d'être dit. Moi aussi, je l'ai souvent entendu, le « je suis pas là pour vous aimer », mais en réalité, si, on est là pour les aimer, et a fortiori comme enseignant chrétien. Je pense que c'est vraiment notre première mission, avec celle d'être compétent dans ce qu'on fait également. Sinon, il y a quelque chose qui n'est pas juste et qui n'est pas ajusté. Pour revenir sur ce qui vient d'être dit, sur les savoirs, ce qui doit être travaillé à l'école, à la fois, il y a le contenu de notre discipline, ce qu'on a enseigné pendant nos 15 heures de cours, mais effectivement, il y a également de nombreux autres savoirs, de nombreuses compétences humaines qui ne font pas forcément l'objet d'enseignements précis, mais qui vont être travaillés de manière transversale et dans les autres moments éducatifs. J'y tiens parce que il est vrai que dans les zones sensibles, les parents sont en réalité très peu présents. Alors nous, on les invite au conseil de classe, mais en réalité, sur les trois classes que j'ai, à un des conseils de classe, il y a un parent d'élève, nous nous estimons heureux. Lors des remises de bulletins, il faut bien considérer que j'ai un tiers des parents d'élèves environ qui viennent. Et pourtant, je les relance. Parfois, pour enfin pouvoir les voir, il faut les convoquer avec le stress que ça implique chez le proviseur, chez le conseiller principal d'éducation. C'est difficile de créer ce lien. Pourquoi ? Parce que ces parents, en réalité, c'est pas tant... Certains ont peur de l'école, mais pour beaucoup, c'est très compliqué pour eux pour diverses raisons. Certains sont dans des situations de précarité absolument incroyables. D'autres travaillent jusqu'à pas d'heure et ne peuvent pas s'occuper concrètement le soir de leurs enfants. Et puis, il y a ces familles monoparentales dont l'un des parents est dans leur pays d'origine et l'autre fait ce qu'il peut sur place. Donc oui, les familles sont très peu présentes en réalité alors qu'on en aurait tant besoin. C'est aussi pour ça, je crois, que pour nous tous, les enseignants de ces endroits-là, les plus pauvres, on n'est pas les sauveurs du monde. Il y en a un qui a fait ça mieux que nous. Mais en revanche, je pense qu'on a tous à cœur d'être présents pour nos élèves un petit peu différemment. Et je suis très sensible. Alors évidemment, j'enseigne le français, j'essaie de les ouvrir à des grands et beaux textes. J'essaie aussi de les aider à s'exprimer mieux, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Mais à côté de ça, j'essaie de passer du temps avec eux pendant les récrés, dans les petits intercours, dans tous ces moments où en réalité, on n'est pas tant l'adulte qui enseigne que celui qui peut aussi écouter, qui peut être présent pour des questions liées à l'orientation. Et on sait très bien qu'elles sont si prégnantes, que ce soit les élèves en immense difficulté ou pour lesquels l'orientation va être un calvaire, ou que ce soit nos bons élèves d'éducation prioritaire qui, eux, veulent aller vers des classes préparatoires ou hésitent en se disant « Mais est-ce que c'est pour moi la classe prépa ? Et tous les ans, on en a qui finalement reculent devant le pas à sauter. Et c'est triste. Mais en tout cas, il y a voilà cette présence éducative me semble essentielle. Et ce n'est pas dans quelque chose de formel. C'est vraiment des temps informels qui vont permettre de vivre ensemble autrement. De la même manière, dans ma matière en particulier, je dirais que le travail sur la langue est vraiment essentiel. On le dit souvent un petit peu comme une idée reçue, mais je crois que c'est très vrai que quand on n'a pas les mots, on a les points. Et je peux le constater, je pense que beaucoup d'actes de violence, et je pense à un élève qui récemment...
Il y a les points...
Ah oui, ouais. Avec GS, oui, oui.
GS.
Je pense à un élève de ma classe, enfin de la classe dont je suis prof principal, qui récemment, parce qu'il était énervé, a démoli une porte à coups de poing. Je pense tout simplement qu'il n'avait pas les mots. Ce n'est pas un garçon dangereux en soi. Il n'a rien de... Enfin, il n'est pas bizarre, je ne pense pas, mais il n'a pas les mots. Et ça, je crois que c'est assez dramatique. Et à côté de cela, il faut aussi constater que nous n'avons... Je sais que ça aussi, ça se dit beaucoup, mais dans les lieux sensibles, où il me semble que l'accent devrait être mis sur plus d'encadrement, plus d'adultes, plus de présence exemplaire, justement, je crois aussi beaucoup en l'exemplarité. En réalité, on a des classes de plus de 30 élèves. Alors, comment les accompagner tous ? Ça reste une grande question pour moi.
Et puis on va passer la parole à Sam, mais allez-y.
Ouais, parce que finalement, on a dressé un tableau qui peut avoir l'air sombre. Au risque de vous surprendre, moi je suis extrêmement optimiste pour la situation de l'éducation en France, qui est en train de se transformer à une vitesse que on ne voit pas, parce que tout occupé que nous sommes au changement des ministres, etc., nous ne voyons pas que notre pays est en train de changer très profondément, loin des regards des médias. Trois points qui me semblent clés. On a parlé du lien, donc on est tous d'accord. Le lien au cœur de la mission éducative, pour des raisons aussi bien cognitives qu'affectives. Donc le lien, ça veut dire les familles, le tissu associatif, les collectivités territoriales, les entreprises. Or, il y a une dynamique très forte dans les quatre sujets. D'abord, les familles sont en profonde transformation. Vous voyez, je pense à ce que vous venez de dire. Alors, on a du mal à faire venir les familles à l'école. Et bien, vous déplacez, vous allez à l'association d'à côté, l'association de jeunesse, là, qui fait un barbecue tous les mois, et ils sont toutes là. Vous les convoquez à l'école, il n'y a personne. Bon, tout le monde sait pourquoi. C'est intimidant, l'école. C'est des gens diplômés, c'est que des bons élèves, et quand ils vont convoquer, c'est pour vous dire que vous occupez pas très bien de votre enfant. Est-ce que vous avez tous vécu la réunion en maternelle où vous vous retrouvez sur la petite table comme ça? Bon, alors le cahier rouge, c'est pour les leçons bleues. Attention à pas vous tromper, parce que votre fils c'était n'importe quoi la dernière fois. Vous voyez, il y a un fond. Vous voyez, on revient sur les vestales. Les enseignants, se sentant investis de cette sacralité des valeurs de la République, sont dans un rapport toujours extrêmement descendant, qui en fait a quelque chose à voir avec ce que le pape appelle parfois la cléricalité, là. Vous voyez ? Au fond, est-ce qu'il n'y a pas un peu de cléricalité à l'école ? Est-ce que de cléricalisme ? Est-ce qu'il n'y a pas un abus d'autorité ? Est-ce que nos enseignants, les pauvres, dans une situation de burn-out complet, sont pas dans une situation où en fait ils sont en permanence en train d'essayer de combler les trous et du coup à surjouer une autorité qui en fait les dessert ? Est-ce qu'il ne faut pas redonner des marges de manœuvre à nos enseignants ? Pas en leur proposant un pacte, des négociations salariales dont on voit pas le bout, etc. En leur amenant des éducateurs. Première chose, très clairement. Notre école a besoin d'éducateurs. Elle a 1 million d'enseignants, elle a 12 millions d'élèves. Dans 10 ans, elle en aura 11 millions d'élèves. Moi, je pense que cessons de parler exclusivement des enseignants. Il y a aujourd'hui 120 000 AESH, accompagnement des enfants en situation de handicap. Il y a, 80 000 ATSEM, assistants territoriaux des écoles maternelles, qui sont devenus des auxiliaires éducatifs absolument indispensables dans les classes d'écoles maternelles, de fait. Hein. Et il y a 50 000 AED, surveillants. Vous voyez, en tout, 250 000 auxiliaires éducatifs, dont on ne parle jamais. Jamais. On vous parle jamais à l'école de ces trois populations. Agrégées, 250 000 personnes. C'est-à-dire la deuxième population de l'éducation nationale derrière les professeurs des écoles. Donc en fait, il y a déjà des éducateurs à l'école, mais donnons-leur un statut, donnons-leur une légitimité, donnons-leur une formation. Et puis peut-être qu'à travers ces gens-là qui ne sont pas payer à l'heure de cours ou dont l'obligation c'est pas seulement l'enseignement, peut-être qu'à travers ces gens-là, on va pouvoir construire la relation avec les familles, on va pouvoir construire la relation avec le tissu éducatif, associatif, on va pouvoir faire le lien, cette fameuse continuité éducative dont se gossent tous les experts, entre le scolaire, le périscolaire, l'extrascolaire, etc. Or, on sait que cette continuité éducative, c'est-à-dire je prends un enfant en situation délicate, je l'emmène dans des enseignements, il en a besoin. Mais à côté de l'enseignement, je lui propose des activités sportives, je lui propose des activités manuelles, je lui propose des activités artistiques, je lui propose de rencontrer les entrepreneurs de sa région. Ben, c'est comme ça qu'on emmène un enfant à retrouver les trois fondamentaux de l'éducation, vous vous souvenez ? Sens, confiance, relation. Voilà, je vais m'arrêter là.
Vous voulez réagir ou...
Alors, par rapport à l'éducatif et au personnel éducatif, je ne vais pas vous dire qu'il n'y en a pas besoin, puisque c'est mon métier originel. Hein, et que j'ai été, ce qu'on disait des élèves, quand je venais me présenter dans la classe, j'étais CPE. Et je leur demandais, vous savez ce que ça veut dire, CPE ? Ah, bien évidemment, les bons élèves levaient le dos en disant « conseiller principal d'éducation ». Je leur dis « Non, tu te trompes, c'est cause principale de tes ennuis. » Voilà, la crainte est parfois le commencement de la sagesse. Mais donc, je ne vais pas vous dire qu'il en faut. Pour autant, on est déjà une société qui est très corporatiste en France. Et j'ai peur que, effectivement, il faut un statut, il faut une formation. Il ne faut pas oublier que les adjoints d'éducation dans le public, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais avant c'était des bourses déguisées, c'est-à-dire que c'était des gens qu'on aidait et qui faisaient ce métier-là pour poursuivre leurs études en étant rémunérés. Donc, je veux dire, la visée éducative de leur tâche était quand même un petit peu éloignée. Hein. Bien sûr qu'il faut les former, bien sûr qu'il faut que... mais il ne faut pas, après, qu'on sectorise les choses et qu'on dise bah, tout ce qui est de la discipline et de l'éducation, c'est ce personnel-là qui s'en occupe. Moi, enseignant, je suis là pour transmettre mon savoir et pas pour m'occuper de la discipline. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est de sectoriser. Quand on va dans les pays étrangers, ça n'existe pas les éducateurs parce qu'on appelle éducateur un prof. Un prof est éducateur et ça lui paraît tout à fait normal. Bien évidemment, ils ont plus de temps que nos enseignants à nous pour passer du temps avec leurs élèves, avec leur classe, pour avoir des temps un petit peu plus individualisés, mais il y a peu de personnel éducatif. Alors certes, nous en avons besoin et il faut impérativement que l'école devienne vraiment inclusive parce qu'elle ne l'est pas. Quand on parle d'inclusion, scientifiquement parlant, quand on regarde la définition d'inclusion, c'est pas génial. Donc je préfère parler d'école inclusive. L'inclusion, c'est d'introduire dans un ensemble homogène un élément perturbateur qui va en perturber la structure. Donc c'est pas génial comme définition l'inclusion. Je préfère école inclusive. Pardon ? Oui, mais bon, pour le gamin qui est l'élément perturbateur, c'est un peu stigmatisant. Pour la confiance, on fait quand même mieux. Ah tiens, c'est toi l'élément perturbateur. Voilà, donc je suis d'accord, il faut des personnels éducatifs, mais il faut que tout le monde se sente éducateur, y compris la femme de service. Elle a son mot à dire et c'est pas parce qu'elle est femme de service qu'elle n'a pas le droit de faire une réflexion à un enfant. Tout le monde est éducateur dans un établissement scolaire, du parent d'élève à la femme de service, à l'homme d'entretien qui fait le jardin, à l'enseignant bien évidemment, au surveillant d'internat, à la psychologue, à l'infirmière et au chef d'établissement. Bien évidemment, au chef d'établissement.
Tout le monde est éducateur. Tout le monde est éducateur.
Oui, je le crois vraiment. Après, il est vrai que beaucoup de nos AED, de nos surveillants, du professionnel des AESH qui accompagnent les élèves en situation de handicap, sont mal payés déjà et sont peu formés. Voilà. Alors certains se forment sur le tas. Et puis pour les surveillants, oui, ça continue beaucoup à être des étudiants qui font ça pour payer leurs études. Ce qui est très bien après, ce qui est intéressant, je trouve, dans leur positionnement, c'est aussi qu'ils forment un intermédiaire en termes d'âge entre les professeurs et les élèves. Mais leur positionnement n'est pas simple et parfois il faut les aider aussi à se situer.
Ce qu'il y a, c'est que ça peut être une expérience intéressante pour être enseignant plus tard.
Oui, certains d'ailleurs le deviennent ou deviennent CPE justement. Donc oui, évidemment, ces personnels-là, il faut mieux les former. Moi, je travaillerais plutôt sur déjà les, bah là aussi, le lien entre les différents acteurs éducatifs, parce qu'en réalité, dans des établissements énormes, on a peu de temps pour se voir. Et plus on va être ensemble pour s'occuper des élèves, plus il va y avoir du fruit. Enfin, j'ai la chance de travailler pour ma classe avec un CPE avec lequel on se fait des points hebdomadaires pour accompagner la classe. Et je trouve que c'est très fructueux. Mais pareil, ce ne sont pas des choses qui sont inscrites dans nos emplois du temps. C'est en plus. Je pense également beaucoup à la place des associations, effectivement. Je pense que le partenariat établissement scolaire-association n'est pas assez travaillé. Après, je ne suis pas sûre que ça suffise pour faire venir tous les parents, parce que vraiment beaucoup, en tout cas dans les zones les plus pauvres, c'est vraiment qu'ils ne peuvent pas, ce n'est pas juste de la peur. Il y a vraiment une difficulté à venir. D'ailleurs, je trouve que la place des associations aussi peut être intéressante quand on travaille sur des projets. Par exemple, avec mes secondes, je fais venir tous les ans une association, Trouve ta voix, d'éloquence. Et pendant 10 semaines, ils vont former...
Ta voix VOX.
VOX, mais avec le petit jeu de mots qui va bien. Et c'est intéressant parce que ce sont des étudiants formés à l'éloquence qui viennent les former également. Et donc, ça fait intervenir d'autres personnes. Ça vient croiser les regards. Et je trouve que c'est toujours fructueux. Voilà. Donc oui, tout le monde éducateur. Je pense aussi... Là aussi, quand la femme de ménage ou autre ne doit pas hésiter à faire une remarque, je pense que c'est très vrai. Mais je pense que dans des établissements comme le mien, il y a une certaine peur également qui peut être là de dire, d'oser dire quelque chose à l'élève, ben, plus baraqué que nous, et on se demande ce qu'il va faire. Et ça s'apprend aussi. Mais sans apprentissage, sans formation, c'est difficile.
On peut peut-être passer la parole à la salle. Il y a des questions ?
J'en ai une, peut-être pour commencer. On a parlé des difficultés, on parle pas beaucoup, on n'a pas parlé ce soir, il me semble, de la violence à l'école, c'est ce qui nous revient.
Isabelle vient de l'évoquer.
Oui, mais... vous l'avez évoqué sur la porte fracturée, ce qui est une vraie violence, mais qui est moins pire que celle dont on a entendu parler ces derniers temps, quand même. Donc, pas moins pire, mais... moins grave que celle dont on a entendu parler. Donc, la violence, les problèmes... quand même de communautarisme à l'école, on n'en a pas parlé aujourd'hui encore, et faire société, c'est quand même ne pas se comporter de façon pacifique et au moins dans le modèle français, ne pas être dans un système communautariste.
Qui veut réagir ?
Je dis que faire société, au moins dans le modèle français, ce n'est pas être dans un modèle communautariste.
Alors, sur le communautarisme et sur la violence à l'école, la société est violente, donc il n'y a pas de raison que cette violence, elle épargne l'école, en fait. Mais si on éduque au respect de la différence et à l'acceptation de l'altérité, de l'autre qui ne pense pas comme moi, et ce n'est pas une raison pour le considérer comme un ennemi, et ça, je pense que ça se fait depuis le plus jeune âge. Mais il ne faut pas faire preuve d'angélisme. Il y a toujours des conflits. Après, effectivement, il y a la manière de les régler. Mais la société est violente et elle ne l'est pas que physiquement. Enfin, il peut y avoir aussi de la violence éducative et des meurtres éducatifs. Hein. Encore aujourd'hui, ça existe. Hein. Mon épouse me relatait qu'une jeune enseignante remplaçante, par exemple, avait montré à un élève de CE2 son cahier, parce qu'il avait mal répondu, en lui disant « Regarde ce que j'en fais de ton cahier !» Et elle l'avait jeté dans la poubelle. Ben, après, on ne peut pas s'étonner que le gamin, quand il a 11 ou 12 ans, il ait une réaction violente si les adultes ne font pas preuve d'exemplarité. Pour les communautarismes, je pense que, mais ce serait sans doute l'objet d'un autre débat, la notion que nous avons en France de la laïcité, moi, m'interroge. Elle m'interroge. Et du coup, je pense que elle peut faciliter la montée des communautarismes.
En refusant
en niant une laïcité de l'exclusion, en fait. Et pas une laïcité qui va permettre aux religions d'entrer en dialogue. Parce qu'on va nier les choses. On va dire ça, ça fait partie de la sphère privée, donc je ne veux pas en entendre parler. Alors que c'est quand même constitutif de ce que l'on est. Enfin, moi, je ne suis pas chrétien de 8h à 18h, heure d'ouverture du bureau de l'URSSEC, et après, je suis autre chose. Enfin, ça imprègne ma façon d'être et ma façon de vivre. Quand il m'arrive de parler avec des musulmans, je ressors de la discussion, non pas ébranlé dans ma foi, mais conforté dans ma foi. Et j'espère que ça en est de même pour eux. Mais notre conception de la laïcité, je la trouve un peu... elle exclut, en fait. Et du coup, elle peut amener à sur-revendiquer quelque chose qu'on veut... qu'on va être obligé de cacher, quoi.
Est-ce que vous voulez dire quand vous vous en sentez conforté dans votre foi, quand vous parlez des musulmans?
Bah, je me sens plus chrétien, et puis je me sens surtout dans une fraternité parce que on a tous les deux, on peut parler de Dieu, quoi. C'est pas interdit, et on peut confronter son avis. Et d'ailleurs, les familles musulmanes qui font confiance à l'école catholique viennent non pas seulement pour des problèmes de sécurité, de qu'on veut pas qu'ils soient avec les voyous du quartier ou autre, mais ils disent chez vous, on sait qu'on va pouvoir parler de Dieu et qu'on va pas se faire disputer pour ça. Bien sûr, il y a des demandes qui sont un peu farfelues, où on va demander voilà des choses que auxquelles l'école catholique ne peut pas répondre, mais voilà, on sait qu'on va pouvoir parler de Dieu et que ça va pas être interdit ou qu'on va pas se faire mal voir ou qu'on va pas se faire suspecter d'un prosélytisme. Je pense qu'il faut qu'on éduque aussi à l'intériorité. Et ça, que ce soit l'école publique ou l'école privée. Bien se connaître soi, ça aidera peut-être à avoir un peu moins peur des autres, quoi.
Isabelle ?
Oui, alors sur les deux points, il y aurait beaucoup à dire. Pour la violence, je pense qu'il y a aussi des choses qui se sont renforcées du fait du Covid. Ça peut sembler être assez éloigné, mais en réalité, on est passé à grande distance les uns des autres, et notamment par les réseaux sociaux, par le numérique. Et il y a eu beaucoup de cyberharcèlement qui s'est développé depuis. Et je crois que ces choses qui se passent en dehors de l'école et d'une sphère sur laquelle on a un regard direct, cela vient créer des problèmes qu'on voit après en classe. Machin a posté la photo de truc et il n'était pas d'accord. Et après, on va se moquer et il va y avoir une violence qui naît. Et je crois qu'on a tendance à minimiser l'impact de ces réseaux sociaux et du cyberharcèlement aujourd'hui dans notre société. Et je crois que dans la jeunesse, c'est particulièrement fort. Donc ça, c'est plutôt une question à traiter et je pense que c'est un grand enjeu. Sur le deuxième point, le communautarisme, je ne vais pas dire qu'il n'existe pas, je le vois très concrètement là où j'enseigne. En revanche, je suis d'accord, je pense aussi qu'une certaine conception de la laïcité n'aide pas. Je ne sais pas si c'est vraiment drôle ou pas, mais vous savez, au début de l'année, il y a eu l'interdiction des abayas à l'école. Et il y a une de mes élèves qui est un petit peu une maligne, une finaude. Et elle s'est amusée à essayer de calculer la longueur des robes qu'elle pouvait porter. Et pendant un mois, quasiment, tous les matins, elle allait voir le CPE de ma classe en disant « Et là, monsieur, ça passe ou ça va pas ?» Voilà, bon, c'est assez souriant, mais elle jouait avec la règle comme un adolescent basique aime bien venir titiller la règle. Mais derrière ça, je crois que c'est aussi parce qu'on est habitué à une vision répressive de la laïcité. On pense en termes d'interdit et non pas de ce qu'elle va permettre. Déjà, quand avec les élèves, on peut amorcer la question en disant non pas « là, arrête, c'est interdit, mais tu vois la laïcité ?» Ça te permet à toi qui es musulman de t'exprimer, de vivre. Ça permet à machin qui est truc de bouddhiste ou je ne sais pas quoi de vivre. Eh bien déjà, il y a autre chose qui se passe. Alors évidemment, j'ai un statut un peu particulier. Je suis consacrée et je suis fonctionnaire de l'État. Donc dans mon enseignement, je suis tenue à la neutralité du fonctionnaire de l'État. Et je ne dis jamais un mot de ça.
Ils le savent, vos élèves, ou pas ?
Ben, je me doute bien, comme googlisant, ils sont au courant. Mais j'élude toute conversation parce que je n'ai pas le droit. En revanche, évidemment que je suis chrétienne ou que je m'efforce de l'être en cours. Effectivement, on n'enlève pas son baptême quand on est prof dans le public. Bien au contraire. Mais je sais que ça passe.
C'est pas votre croix quand vous
enseignez. Non, bien évidemment. Il n'y a vraiment aucun signe ostensible et je veille vraiment dans mes propos à ça. Je pense aussi que la neutralité, je dois en jouer le jeu à fond. Mais Oui, les élèves, sans doute, et quand il y a des soucis justement sur les abayas, sur le port du voile ou autre, très spontanément, c'est souvent moi qu'ils viennent trouver, parce que je crois. Et puis, j'en discutais avec une des personnes présentes ce soir, mais sur les parents d'élèves, justement, musulmans, donc je suis dans un lieu où il y a beaucoup de musulmans, moi, je resterai marquée toute ma vie par cette maman d'élève qui, un soir, après une réunion compliquée pour son fils, qui vraiment partait très très loin, dans des grosses bêtises, pour ne pas dire autre chose, m'a dit en sortant, vous savez, je sais que vous n'avez pas le droit d'en parler, mais vous êtes croyante, et je tenais à vous dire, de ma part et de la part des autres parents musulmans, combien c'était important pour nous d'avoir quelqu'un qui croit en Dieu. Donc voilà, ça va complètement dans le sens de ce que vous disiez, et je pense que sans doute qu'il y aura à faire évoluer les choses vers une vision plus positive de la laïcité.
Guillaume ?
Sur la question de la violence et du communautarisme, je pense que ce qui a été dit me semble répondre à votre question. Si vous me permettez rapidement dire un mot de ce que j'ai dit à l'origine, on ne mesure pas la crise de l'école parce qu'on ne mesure pas à quel point notre société est affectée par la crise de la raison. Aujourd'hui, les idées, ça n'intéresse personne. Vous pouvez avoir des arguments, ça n'intéresse personne. Par contre, si vous racontez votre expérience ce matin avec à la boulangerie, vous allez faire 1 million de vues sur Instagram. C'est pas forcément mal. Hein. Finalement, notre XXe siècle, si féru de concepts, de systèmes, il n'a pas donné des choses toutes remarquables. Cette crise de la raison, elle est après tout assez sensée. Que les enfants se méfient un peu du cours de maths et qu'ils disent « Oui, donne-moi plutôt l'accès à ton réseau LinkedIn », ils sont assez lucides. Hein. Que les enfants valorisent la relation, le charisme, la capacité à entraîner, la capacité à dire ses émotions, la capacité à témoigner, davantage que la fonction f de x égale 1 sur x, programme de première. Ça me paraît plutôt pas mal. Hein. Ça me paraît plutôt intéressant d'avoir des jeunes aussi férus de relations, aussi férus d'exemples, aussi férus de ce qu'on appelle rôle modèle. Aujourd'hui, en français, on parle beaucoup en anglais, en ce moment, vous avez remarqué. Ça dit quelque chose aussi. C'est pas forcément que la culture américaine est que mauvaise, c'est qu'aussi, probablement, elle répond davantage aux injonctions, aux difficultés auxquelles est confronté un adolescent aujourd'hui. On a parlé de l'éducation sur tout le spectre, c'est un point important quand même. Les problématiques sont très différentes, hein, puisque si on prend la petite enfance, le primaire, le sup qui est en train de se révolutionner totalement autour de dynamiques intéressantes. Donc moi, j'ai envie de cibler...
Le sup.
L'enseignement supérieur. J'ai envie de cibler sur l'action du collège. Le collège est très clé aujourd'hui. Nos adolescents sont très en difficulté, et c'est là qu'on a les phénomènes de violence, parce qu'ils sont très dépourvus. Mais en fait, ils vont chercher là où ils trouvent les ressources dont ils ont besoin pour grandir. Et s'ils les trouvent auprès de l'imam, tant pis pour l'enseignant. Et après tout, l'enseignant a conquis les cœurs en montrant qu'il a porté quelque chose d'autre aux paysans, aux jeunes paysans un peu enfermés dans sa communauté rurale, et qui a envoyé valdinguer son curé pour des bonnes raisons. Et peut-être que, je vais dire des énormités, hein, mais peut-être que la façon dont les jeunes se tournent vers d'autres modèles qui ne nous conviennent pas, peut-être qu'ils le font pour de bonnes raisons. Capacité à être au monde, qui sont mes amis, comment je trouve des amis. C'est extrêmement violent le monde d'un adolescent, il était déjà à notre époque. L'adolescence a toujours été un âge de grande violence et d'exposition. Ils vont chercher les ressources là où ils les trouvent. Et si nous ne leur donnons pas, tant pis pour nous. Ça veut dire qu'on n'a rien à leur dire. Vous voyez, je reviens à ce que je disais. L'éducation, c'est une question éternelle qui est adressée à toute société. Et si on n'a rien à dire en termes d'éducation, on disparaîtra du paysage éducatif. Et il y a d'autres personnes qui prendront la place sur le paysage éducatif. Vous savez comment on sait comment tous les mouvements politiques se sont d'abord assis sur la prise des cœurs, voilà, le Hamas, les mouvements fascistes, l'éducation populaire, le catholicisme. Tout ça est lié. Donc après tout, arrêtons d'en vouloir aux jeunes de trouver ailleurs les réponses que nous ne leur apportons, plus. Donnons-nous les moyens de leur apporter des réponses sensées, profonde sur ce que c'est que l'amitié, le couple, la paternité, la maternité. Oui, par exemple, la relation entre les hommes et les femmes a été bouleversée. C'est un bouleversement à l'échelle de l'humanité entière. Le monde entier est parfois un peu dubitatif face aux évolutions du monde occidental. Ça ne veut pas dire qu'elles sont bonnes ou mauvaises. Pourtant, on a des choses à défendre. Qu'avons-nous à dire sur le rapport entre l'homme et la femme, sur la façon dont l'accès des femmes à la vie professionnelle rend la vie plus grande, plus intense, plus profonde? Vous voyez, moi, j'ai travaillé dans les sous-marins. Vous voyez, sur les bateaux, l'arrivée des femmes sur les bateaux a changé complètement la vie d'un équipage. Complètement. Complètement. Il faut parler de ces choses-là. Si on n'en parle pas, ben c'est normal qu'ils aillent taper sur youporn.com pour voir comment ça marche. Quoi. Vous voyez, excusez-moi, j'ai fait un saut de puce là. Hein. Mais vous voyez, par exemple, il y a eu des retraits de l'éducation affective et sexuelle. Alors, c'est probablement mal nommé, c'est compliqué, on touche à l'intimité. Alors, je comprends hein, les difficultés des parents. Mais si on parle pas de ces choses-là, si on n'a rien à dire de tout ça, eh ben ils iront les chercher ailleurs. Il y a un psychologue qui disait « Vous inquiétez pas pour l'éducation sexuelle, le porno s'en occupe. » C'est ce qui se passe aujourd'hui. « Ne vous en faites pas pour l'éducation religieuse, les salafistes s'en occupent. » C'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, donc, pour moi, la violence, de qui vient-elle? Finalement, un enfant qui est violent, en fait, qu'est-ce qui caractérise un enfant? C'est pas un sujet de droit, il n'est pas responsable de ses actes, il y a d'autres adultes qui endossent une responsabilité pour lui au nom de l'adulte qui sera demain. Donc, un enfant qui est en violence, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas nécessiter de l'autorité, nécessiter d'une contre-violence parfois. Hein. L'éducation est une forme de violence très forte. Mais c'est toujours le signe d'une violence préexistante qui le met en difficulté. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne prend pas assez la mesure. Oui, sur le sujet du harcèlement auquel vous avez fait référence, moi j'étais extrêmement choqué de la façon dont on a traité le harcèlement. Le harcèlement, c'est la faute du harceleur. J'ai lu un article dans Libération, « L'être un harceleur ». Toi, tapis dans les couloirs, qui guette ta victime, qui t'approche d'elle, je voudrais te dire à quel point tu es méchant. Comment peut-on s'adresser à un enfant de cette façon? Il y a aussi quelque chose d'extrêmement choquant dans le rapport que notre société est en train de construire à l'enfant, comme si c'était un adulte responsable. C'est pas un adulte responsable. Il appelle des adultes pour endosser la responsabilité dont il a besoin pour aller au monde en sécurité.
Question? On va vous passer le micro.
Oui, moi j'avais une question sur l'impact des réseaux sociaux, justement, qui deviennent le lieu où les enfants apprennent, où s'éduquent tout seuls. Et je raisonnais assez bien ce que vous disiez au début, enfin, les enfants lisent les mêmes histoires. Il me semble que les enfants ne réfléchissent plus. L'intériorité qui forme la conscience et tout ça, c'est des questions que je me pose et voilà. Il me semble que ça rentre dans...
Oui.
Oui, alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses... Enfin, je pense que les enfants réfléchissent. Ça, non. En revanche, je crois qu'on a aussi à les aider à accéder à leur intériorité. Effectivement, le monde est d'autant plus bruyant de nombreuses choses, y compris sur les réseaux sociaux. Déjà, les réseaux sociaux, il y a quand même des normes. La plupart des réseaux sociaux, c'est pas avant 13 ans. Les trois quarts des élèves, ils sont plus jeunes. Mais je crois que remettre les choses en perspective, et puis pour certains, 16 ans, c'est vraiment important. Et sans doute, y a-t-il à refaire des points réguliers là-dessus. Ensuite, sanctuariser aussi des espaces.
Vous voulez dire faire des points réguliers?
Aider aussi avec... Enfin, quand j'enseignais au collège... Non, quand j'enseignais au collège, on avait créé des projets autour des réseaux sociaux parce qu'on s'était rendu compte que même nos élèves de 6e y étaient et publiaient parfois des choses extrêmement choquantes, justement, du style YouPorn. Et on s'est dit, Teddy, qu'il fallait agir. Donc, on avait refait un point, on avait relu les règles des réseaux sociaux et on avait invité les parents qui souhaitaient aussi à venir. Enfin, on avait un petit peu travaillé là-dessus. Voilà, c'était des propositions. Alors, certes, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais ce qu'on pouvait faire, on avait essayé de le faire. Maintenant, les téléphones sont interdits au collège, dans l'enceinte du collège. Au lycée, c'est à l'intérieur des salles de classe. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, il va y avoir plein de petits jeux pour quand même y avoir accès. Il n'empêche que ces lieux-là, justement, sont sanctuarisés comme des lieux sans téléphone. Et là aussi, je pense qu'on a à jouer avec les autres acteurs éducatifs. Et malheureusement, quand les parents sont trop absents, c'est difficile. Mais le nombre de fois, et notamment quand j'étais au collège, j'ai pu m'entendre dire à des parents d'élèves « Non, mais le soir, le téléphone, c'est pas dans sa chambre. » Et puis vous contrôlez, vous l'accompagnez. Il ne s'agit pas d'interdire les réseaux sociaux. Il s'agit de les accompagner dans leur usage. Donc, on fait ce qu'on peut, les uns et les autres, mais je crois que c'est un travail en synergie, en tout cas.
Est-ce que, attendez le micro, s'il
micro,
vous plaît.
Micro, oui.
Merci.
Ce que je fais, c'est que les enfants n'imprègnent plus...
Les enfants, on entend...
N'enregistre plus les leçons, enfin, ils ont du mal à apprendre et à faire le lien entre les notions et pour moi c'est une vraie question. Et il me semble que c'est les écrans parce que la majorité des élèves que j'accueille sont des enfants dont les parents, je m'occupe d'un centre d'accompagnement scolaire. Donc c'est beaucoup des enfants en difficulté scolaire que j'accueille. Et c'est de l'aide individualisée parce qu'ils peuvent pas progresser dans un groupe, etc. Et pour moi, c'est une vraie question.
Je voudrais rapidement... tout le monde a parlé de la chute en maths de PISA. C'est pas du tout ce que dit l'enquête. Tous les pays de l'OCDE ont chuté de 20 points. La France est restée dans la moyenne. Et par contre, on est passé à côté de ce qu'il y avait de colossal dans cette étude PISA. C'est-à-dire que depuis 10 ans, tous les pays de l'OCDE ont perdu 20% de leurs résultats. Partout. Alors on dit, c'est lié au Covid. Pas du tout. Il y a des enquêtes préliminaires qui montrent que cette chute, elle date d'avant Covid. Donc, factuellement, mais qui a relevé le point? Dans tous les pays industrialisés, et un peu plus large, puisque l'OCDE aujourd'hui c'est plus large, il y a une chute de 20% du niveau des élèves de 15 ans. À quoi? Non, pas seulement. Non, en littératie, en sciences, en maths. À quoi cela peut-il être dû? Il y a trois clés que met en avant l'OCDE. En fait, l'OCDE identifie les 5 ou 6 pays qui ont bien résisté. Et donc elle dit, il y a un phénomène qui est intéressant qui s'appelle la résilience éducative. Alors, usual suspect, Hong Kong, Macao, Singapour, bon. Et puis, Estonie, intéressant. Et du coup, le modèle estonien mis en avant, et puis ils analysent tout ça et disent quels sont les facteurs d'un système éducatif résilient. Soutien des parents. La France, catastrophique. Catastrophique. C'est-à-dire, on interroge les élèves. À la fin, on interroge les élèves, on dit si vous êtes soutenu par votre enseignant. Soutien des enseignants. La France, catastrophique. Et bon usage du numérique. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où le numérique porte les apprentissages et des endroits où le numérique gêne les apprentissages. Les jeunes Français sont parmi les Français. Sur ces trois critères, la France en retrait. Très faible implication des parents. Très faible soutien des enseignants, notamment dans le secondaire. Et mésusage du numérique. Vous avez eu raison de souligner que le portable est censé être interdit à l'école depuis 2018. C'est la loi Blanquer. Les Français sont 50% à dire que leurs apprentissages quotidiens sont gênés par l'utilisation des smartphones. C'est énorme. Vous voyez, comme quoi, ça devrait amener un peu d'humilité le législateur, quand même. Donc, sur le numérique, moi je pense qu'il y a un énorme sujet. Alors, on n'a pas le droit d'en parler parce que tout de suite, on est pour ou contre le numérique. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre le numérique. Ce que montre l'OCDE, c'est qu'il y a des dispositifs numériques extrêmement intéressants. Le tableau numérique interactif, la capacité de l'enseignant de se porter davantage à la rencontre. Là où le numérique est au service de la relation, ça marche. Là où le numérique se substitue à la relation, c'est catastrophique. Et l'impact des systèmes numériques qui se substituent à la relation au moment même où l'enfant doit sauter du nid comme adolescent et se porter à la rencontre de l'altérité à tout point de vue, c'est catastrophique. Moi, je vous donne ma conviction très forte. Le législateur a fixé une majorité numérique à 15 ans. Qu'attend les pouvoirs publics pour avoir une grande campagne qui dit le portable, c'est pas avant 15 ans? Moi, je suis assez radical sur cette question.
Autre question, oui, merci.
Bonsoir. J'ai deux questions. La première pour Christophe. Excusez-moi de vous appeler par votre prénom, mais j'ai peur d'écorcher votre nom de famille.
Vous ne seriez pas le premier. En 54 ans, j'ai tout entendu, donc je suis absolument vacciné.
Donc la première question, c'est est-ce que vous pourriez nous dire quel est l'apport particulier de l'enseignement catholique à la question qui nous occupe ce soir? Vous êtes directeur d'un réseau de congrégations actives dans l'enseignement. J'entends dans la vie de l'Église catholique des éléments qui me semblent lui sont propres, ou en tout cas qui ne sont portés que dans ces sphères-là. Je n'entends parler que dans l'Église catholique de devoirs d'État, d'exigences de charité, d'éthique des vertus, alors que j'entends les ministres de l'Éducation en France qui nous parlent de cours d'empathie quand ça se passe mal. C'est quand même beaucoup plus ténu, me semble-t-il, que les valeurs que je viens d'évoquer. Et puis une question pour l'ensemble des panélistes. Il me semble, dans ce que vous avez raconté, que les éléments en défaveur de notre système scolaire, numéro un, lui sont externes. Et je pense spécialement à la famille, soit parce que on est dans des familles recomposées, monoparentales, etc., ou pour des questions de pauvreté. Mais on a vu dans le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre que le facteur numéro un d'implication de pauvreté en France, c'est la déstructuration des familles. Est-ce que, pour le faire simple, on n'aurait pas intérêt à prendre une partie du budget qu'on alloue à l'école, qui est un des premiers budgets de l'État après la dette, pour le mettre pour les familles? Je dis ça parce que on a tout fait en France pour tuer la famille. Je veux dire par là, on a libéralisé le divorce, on a supprimé les avantages fiscaux liés à l'engendrement d'enfants, on a supprimé les avantages fiscaux liés au mariage, etc., etc. Enfin bref, est-ce que on n'a pas un problème numéro un dans l'école qui porte sur les familles et pas sur le système d'enseignement lui-même? Merci.
Christophe.
Alors, pour répondre à votre première question, qu'est-ce qu'on trouve dans l'enseignement catholique qu'on trouve pas dans le public? Moi, je veux pas me situer sur une compétition entre l'un et l'autre, hein, parce que on participe dans l'enseignement catholique au service public d'éducation, mais avec une particularité qu'on appelle le caractère propre, qui est fondé sur l'anthropologie chrétienne, qui veut que chaque être humain est éducable, voilà, et que on croit en la potentialité et on croit en l'éducabilité de chaque enfant. Voilà. Ce qui va faire la différence, c'est et en particulier dans l'enseignement congréganiste, c'est d'avoir la médiation. On est déjà une religion de l'incarnation, donc c'est plus facile pour nous, mais d'avoir la médiation d'un fondateur ou d'une fondatrice qui va avoir reçu du Saint-Esprit une intuition fondatrice, une intuition éducative, qui va le pousser à répondre à des besoins de son temps. Hein, c'est ce qu'on appelle un charisme, en fait, hein. Un charisme, c'est une rencontre personnelle avec Dieu, du fondateur ou de la fondatrice. L'expérience de Dieu, c'est une expérience humaine forte et un contexte social et historique particulier. Voilà. Le charisme, il englobe tout ça. Et on voit que, on parlait des frères écoles chrétiennes tout à l'heure avec Guillaume, avant l'émission, et qui ont été fondées au XVIIe siècle, me semble-t-il, je dis peut-être une bêtise. Et c'est le plus grand réseau congréganiste de l'enseignement catholique à ce jour, puisqu'ils ont 150 établissements. Ils sont toujours sur des projets éducatifs qu'ils ont su faire évoluer, mais toujours sur la même intuition de leur fondateur, qui est toujours actuelle. Et c'est le cas pour bon nombre de congrégations, si vous voulez. Donc, ce qu'on va trouver peut-être dans l'enseignement catholique, eh ben, c'est ce caractère propre qui fait que laisser venir à moi les plus petits d'entre eux, voilà, vous voyez, ce message de se mettre à la suite du Christ et de penser que l'acte éducatif est un acte fondamentalement chrétien et qu'on se met à suivre Jésus quand on s'occupe et quand on se préoccupe des plus vulnérables, des plus petits et des plus jeunes. Voilà. Donc c'est peut-être ça, en fait. Et pour votre deuxième question sur la famille, j'ai pas d'avis aussi tranché que vous, mais c'est vrai que Voilà, on pourrait faire des orientations politiques pour les familles, parce que effectivement, là, on s'est tombé ce matin, je crois, c'est la première fois depuis 1945 que la France a enregistré un si petit nombre de naissances, puisqu'on est en dessous de 700 000 naissances en France. Donc c'est un petit peu inquiétant. Je dirais pas que c'est du fait d'une destruction de la politique de la famille depuis 50 ans. Je serais pas aussi radical que vous. Sans doute que ça a dû y concourir. Je suis d'accord avec vous. Et que, voilà, il y a peut-être certains modèles qu'on a voulu détruire et qu'on n'a pas construit quelque chose d'autre à la place. Mais c'est pas seulement ça, quoi. C'est aussi la peur de l'avenir. Il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas faire d'enfants. Moi, j'entends, et c'est dramatique, hein. J'ai entendu des jeunes parents dire, non, nous, on fera pas d'enfants parce qu'on veut pas faire de pollueurs supplémentaires. Je suis atterré d'entendre des choses pareilles. Mais on l'entend. Donc, voilà, la peur de l'avenir, l'incertitude, cette angoisse qu'on fait naître tout le temps sur le réchauffement climatique, sur le... Voilà, mais une fois de plus, enfin, je trouve que on a voulu tuer Dieu et on est responsable de tout, donc il faut trouver des responsables à tout, et il faut... l'homme est forcément responsable de tout, il va s'auto-créer bientôt, on est bientôt au transhumanisme avec l'intelligence artificielle, là, qui fait très peur, mais en même temps on y va, les deux pieds devant. Voilà, j'ai pas forcément de réponse sur la famille, hein, mais je pense que mes deux partageurs de scène vont mieux répondre que moi. Hein.
Moi, je n'ai pas non plus de grand avis sur la question. Ce que je peux juste constater, c'est que dans les zones sensibles et pour l'école, on a moins de moyens que quand j'ai commencé. Ça fait 11 ans que j'enseigne et 10 ans que je suis en banlieue sensible. Et clairement, avant, il y avait des limites de nombre d'élèves par classe, ce qui était plus simple. Maintenant, c'est ce nombre de classes maximales a complètement sauté. On est de plus en plus nombreux. Donc, je vois plutôt une diminution des moyens qu'une augmentation.
C'est dû au fait qu'on a affecté des moyens au dédoublement des classes ou ça n'a rien à voir?
Peut-être, je ne sais pas. En fait, officiellement, il y a eu un changement de la politique d'éducation prioritaire, par exemple. Officiellement, les lycées ne sont plus en zone d'éducation prioritaire, même si en réalité, derrière leur nom, on peut toujours voir l'ancien ZEP, qui était pourtant devenu REP pour les, entre les zones et les réseaux d'éducation prioritaire pour les collèges. Donc, il y a vraiment des choses qui se sont faites à ce niveau-là. Après, je ne sais pas à quoi ça a été alloué. Ce n'est pas mon domaine de compétence du tout. Mais dans tous les cas, moi j'estime que tous les endroits identifiés comme lieux de pauvreté, c'est là où on devrait mettre le paquet, mais peut-être que ça passe par une meilleure réflexion en amont, avant seulement des moyens financiers.
Guillaume ?
Sur la famille, c'est une question un peu délicate. Il ne faut pas oublier que la famille est aussi le premier lieu de violence sexuelle à l'endroit des enfants. Il ne faut pas oublier que la famille est aussi un lieu d'aliénation, peut l'être. C'est un endroit où le don est plein et entier. C'est aussi un endroit de violence, de domination, d'abus. Les relations entre les hommes et les femmes ont été bouleversées, pour le meilleur, pour le pire. Est-ce que c'était mieux avant? Je ne suis pas sûr que les femmes de cette salle soient toutes d'accord. Les hommes non plus d'ailleurs. Si le modèle d'avant avait été si bon, il aurait probablement pas évolué. Donc, est-ce que on a cassé la politique familiale, les choses qui se discutent, etc. Mais il y a aussi des réalités familiales qui ont beaucoup évolué. Il y a le phénomène migratoire aussi qui vient culbuter nos modèles familiaux, etc. Donc, je rejoindrai pas sur le fait qu'il y ait que les choses soient aussi manichéennes. Les choses sont complexes. Surtout s'agissant de liens familiaux, tout le monde en a fait l'expérience dans sa propre vie. Et puis il y a des réalités qui évoluent, et il faut les accompagner, et qu'il y ait besoin aujourd'hui de se reposer la question de quels sont les bons leviers d'une politique familiale efficace, alors je vous rejoins totalement. Par exemple, est-ce que politique d'allocation, ça correspond vraiment aux besoins des familles? Est-ce que la politique familiale devrait pas endosser une dimension éducative plus claire? Est-ce que la politique du logement ne devrait pas être au cœur de toute politique familiale cohérente. Je vous donne un exemple pour vous donner une idée. Oui, on parle beaucoup de familles monoparentales, de l'apparition du bloc maman, enfant. En protection de l'enfance, j'ai discuté avec une directrice, elle disait on accueille des femmes seules avec leurs enfants. Puis en fait, au bout de 3 mois, on s'est rendu compte que le père, il était là tous les soirs. Il venait tous les soirs, mais c'était présenté comme une famille monoparentale parce que bah, c'est mieux, quoi. Ça rentre plus dans les cases. Aujourd'hui, tout le monde s'occupe des familles monoparentales. Donc, vous avez une surdéclaration de familles monoparentales. Vous avez aussi des familles venues notamment d'Afrique subsaharienne qui sont dans des répartitions des rôles entre le père et la mère qui sont inaudibles pour un esprit occidental formé au canon de notre société. Et du coup, on se cache. Donc, en fait, les choses sont infiniment complexes. Et donc, comment réappréhender le fait familial dans sa diversité? Vous voyez, la politique familiale telle que créée au début du siècle, elle faisait face à des communautés paysannes relativement homogènes, homogénéisées par Verdun d'ailleurs, si vous me permettez, avec la disparition des pères massivement. Hein. C'est clé dans la manière dont on a conçu notre politique familiale. Aujourd'hui, c'est pas du tout ces réalités. Donc, on a parlé du divorce, vous voyez. Je veux dire, le mariage est aussi un lieu de grande souffrance, tous les mariés le savent. Enfin, plus ou moins. Et de grande joie. Mais est-ce qu'on peut empêcher une femme, un homme qui souhaite. Je pense que c'est inaudible aujourd'hui. Et c'est ni bien ni pas bien, c'est une réalité, il faut l'accompagner, on fait comme on peut. Alors il y a des initiatives très intéressantes, vous connaissez Familia, qui est dans la médiation de couple, dans l'accompagnement des séparations, on a probablement un accompagnement des couples, mais la question du couple est une question centrale. Je pense que les enfants, ils répètent ce qu'on leur dit de répéter, hein, le changement climatique, à mon avis, la difficulté à se mettre en couple est bien plus grande dans l'impact que ça a sur la natalité aujourd'hui, on n'en parle jamais. C'est, d'abord, faire un enfant, c'est d'abord aimer quelqu'un. C'est compliqué d'aimer. Il faut se donner. Pour se donner, il faut se connaître, il faut avoir cette intériorité, il faut avoir cette confiance en soi, rentrer dans l'engagement. Est-ce qu'aujourd'hui, on fait grandir cette dimension-là? Oui, on parlait du téléphone portable. Oui. Donc, moi, je ne serais pas aussi manichéen. Après qu'il y a un enjeu majeur, il n'y a aucun doute, mais il faut se donner les politiques, les moyens d'une politique familiale qui dépasse la seule politique de guichet. Quoi. Et ça veut dire rôle des associations, ça veut dire... rôle central de l'école, parce que l'école est devenue incontournable, l'école est devenue un premier guichet du service public aujourd'hui. Vous voyez, je vous donne un exemple pour les familles allophones. On a ouvert les écoles pour donner des cours aux parents allophones, donc qui ne parlent pas français, dans l'école de leurs enfants le soir après l'école. Et bah, grâce à ce dispositif, on voit une augmentation de 20 points de l'implication des parents dans la scolarité de leurs enfants. C'est remarquable. Voilà un super dispositif pour qu'on personne n'en parle. Voilà un dispositif très intéressant qui montre qu'on peut se servir de l'école comme plateforme d'une société qui réinvestit la question éducative, et pas comme le temple des Vestales qui ont perdu pied bien avant l'arrivée de d'Odoacre à Rome. Voilà, vous me suivez, je crois. Sur la question de l'enseignement catholique, moi, vers le haut n'est pas une institution catholique, donc j'ai pas forcément de... Mais je voudrais témoigner d'une chose. Moi, j'essaie de parler à tout le monde dans l'éducation, et parler à tout le monde dans l'éducation, vous savez que ça mène loin. Pas ou pas, mais je peux vous dire que ça mène loin. Les catholiques n'ont pas pris la mesure, parce qu'ils sont habitués à être sur le recul dans la société, et à quelque part porter le poids d'une culpabilité, d'avoir... Enfin, vous savez tout ça. Ils n'ont pas pris la mesure du fait que l'éclatement de la société française les remet en position absolument centrale. Totalement centrale. Dans une société archipélagique, comme on dit chez Monsieur Fourquet à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut parler d'une voix à 20... Vous voyez, 40%, 45% des Français disaient qu'ils ont fait une crèche à Noël. Vous voyez, ça reste, dans une société du repli, du déracinement, etc., quelque part, le catholicisme, en tant que phénomène culturel, hein, je ne parle pas de foi, redevient bankable, comme on dit en bon français aujourd'hui. Et ça se traduit d'abord dans l'enseignement. Il y a 1% des Français à la messe le dimanche, il y a 20% des élèves français inscrits dans des écoles chrétiennes. Et puis il n'y a pas trop d'alternatives, vous avez vu, il y a cette extrême sensibilité de la question musulmane en France. Et du coup, il y a à la fois il y a des opportunités immenses qui s'ouvrent pour les chrétiens qui, s'ils veulent jouer un rôle dans la société, notamment pour emporter ce regard qu'avons nous à transmettre, ils ont des choses à apporter, et à la fois... Il y a une extrême méfiance de la société qui veut pas le retour des curés, excusez-moi. Voilà. Et donc, il convient surtout dans cet endroit prendre la mesure de cette immense opportunité pour ces sociétés du déracinement qui offrent vraiment des perspectives très importantes pour les chrétiens qui veulent s'impliquer dans la vie de la cité, et à la fois de le faire avec un immense sens de la responsabilité, parce que si c'est le retour de du pouvoir vertical et de c'est comme ça et c'est pas autrement, bah ça marchera pas, quoi.
Merci beaucoup, Étienne.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous, à vous quatre. Merci à vous pour votre présence. Peut-être rappeler ou donner le thème de notre prochaine soirée qui aura lieu le 6 février et qui sera sur la question de la bénédiction des couples
situations
en situation irrégulière. Voilà. Donc, et la question de savoir si la doctrine doit l'emporter sur la pastorale ou l'inverse. Voilà. Merci beaucoup et très bonne soirée.
Merci.